Et d'abord, les grands titres de ce dimanche. 4 personnes arrêtées à Sydney après que les autorités déjouent un attentat présumé contre un avion. Un référendum sur la question d'une république en Australie aura lieu en temps et lieu, selon le vice-premier ministre Barnaby Joyce. Et puis l'Australie gagne sa première médaille d'or aux mondiaux de natation grâce à Emily Seabaum sur le 200 mètres d'eau. Quatre personnes arrêtées à Sydney après que les autorités déjouent un attentat présumé contre un avion. Le commissaire de la police fédérale Andrew Colvin déclare que l'enquête continue.
In recent days, law enforcement has become aware of information that suggested some people in Sydney were planning to commit a terrorist act using an improvised device. At this time, we don't have a great deal of information on the specific attack, the location, date or time. However, we are investigating information indicating that the aviation industry was potentially a target of that attack.
Voilà le commissaire de la police fédérale. Le premier ministre Malcolm Turnbull ajoute que la sécurité a été renforcée dans tous les aéroports du pays.
The Office of Transport Security has advised that security screening will take longer and travellers should arrive at terminals at least 2 hours before flights to allow ample time for screening. They should limit the amount of carry-on and checked baggage so far as possible, as this will help to ensure that security screening is efficient. And airlines, of course, will be able to provide further advice on the impact of these measures on your particular flights.
Voilà, c'était le Premier ministre. Le ministre fédéral de la Justice, Michael Keenan, demande à tous les Australiens d'être vigilants suite à cette opération policière. 70 personnes ont été inculpées dans 31 opérations antiterroristes à travers le pays depuis 2014. L'opération d'hier soir montre le risque et menace potentielle d'attaques sophistiquées. On écoute Michael Keenan.
Now, in light with this information, it's very important that everyone in Australia remains vigilant. If there is something you see that seems suspicious, if there is something that doesn't seem right, then call the National Security Hotline on 1800 123 400. All the information that we get helps us to complete an intelligence picture about what is going on, and it helps our agencies to do this very important job, the job that they are doing so well of keeping the Australian people safe.
Voilà, c'était le ministre fédéral de la Justice et ce numéro de téléphone à nouveau, 1800 123 400 pour la sécurité nationale en Australie. Entre-temps, 6 pays de la région, l'Australie, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, Brunei et les Philippines se rencontrent en Indonésie pour discuter des mesures pour lutter contre les menaces de terrorisme dans la région. La question des combattants djihadistes qui reviennent de la Syrie et de l'Irak a été discutée. Le procureur général australien George Brandis représente l'Australie. On l'écoute.
To enable us to learn from one another in fields as various as CBE programs, law reform, the management of terrorist prisoners, and other fields as well. And to build an architecture through which the 6 nations represented today can continue to work together, to learn from one another, to assist one another, to ensure that we always stay ahead of the terrorists.
Voilà le procureur général George Brandis. Un gouvernement travailliste fédéral, si élu au pouvoir, promet de passer à la loupe les familles riches qui ont des fiducies familiales pour réduire la facture d'impôts, ce qui ajouterait quelques 20 milliards de dollars au coffre de l'État selon le Labour sur une période de 10 ans. Mais le ministre des Finances, Matthias Cormann, a déclaré sur Sky News ce matin que les travaillistes veulent attaquer plutôt ces personnes qui gèrent les petites et moyenne entreprise.
Bill Shorten is going to try and create this impression that he can take $17 billion out of the economy, but nobody's going to have to pay. Well, you know, small business people across Australia will want to know where he is going to get that $17 billion, out of which pockets he's going to get those $17 billion, because in the end, small business already are facing higher company taxes under Bill Shorten, and this is just another attack on them by Bill Shorten.
Le ministre des Finances, Matthias Cormann, Chris Bowen, le porte-parole de l'opposition sur les questions de finances, était sur l'ABC ce matin et il rejette les propos de Matthias Cormann.
Around 315,000 trusts will pay more tax, or the beneficiaries will pay more tax as a result of this. So for the government to engage in that scare campaign, we're ready for it.
Voilà, Chris Bowen, le porte-parole de l'opposition. Le vice-premier ministre Barnaby Joyce prévoit qu'un référendum sur la question d'une république en Australie aura lieu en temps et lieu, mais que ce n'est pas une priorité pour les Australiens en ce moment. Il déclare que les travaillistes devraient se concentrer sur les politiques économiques plutôt.
They can talk about a republic and after that then they can talk about four-year terms. What Bill Shorten's doing is he's basically not going to commit to building dams. He doesn't commit to building the Inland Rail. He has no real policies of economic development. So he's got to go out into the podium and say something. Everybody's got an opinion on a republic. That we basically know what it is. The day will come at some point in time where people will have another referendum, I suppose. But that is not is what's pressing at the moment. If you want to see what's pressing at the moment, go to any office and say, what is the issue that's coming here? And they'll say, I cannot afford my power bill.
Voilà le vice-premier ministre australien. Le député du Parlement du Victoria, Khalil Edey, est revenu en Australie après avoir été interdit sur le sol aux États-Unis. Il parle de discrimination sans explication des autorités américaines. Il est né au Liban d'origine syrienne et se trouvait en mission en Amérique du Nord. On écoute ses explications.
I've been discriminated against. No explanation whatsoever. I've got the visa, as I said, on the 23rd of June, which is 5 weeks ago, and that's an official passport, and they asked me all the questions. There's any issue, they should have told me. They said, I've got 5 weeks to do that, not to just being stopped at Vancouver airport, not allowed to board the plane and join my colleagues.
Voilà le député Khalil Haidé. Le sénateur des travaillistes au Parlement fédéral, Kim Carr, déclare que la ministre australienne des Affaires étrangères devrait être outragée par le traitement du député du Victoria.
We are waiting for an explanation from the American government. Quite clearly, Khalil has been a victim of Trumpism. What we're seeing here is the chaos that reigns in the United States. We simply can't understand why an ally like Australia, great military partner like Australia, should be treated in this way.
Voilà, le sénateur Kim Carr, l'ambassade américaine à Canberra, n'a pas commenté sur la décision des autorités américaines. Un des opposants du régime au Pakistan, l'ancien cricketeur Imran Khan, fustige le premier ministre déchu Nawaz Sharif, qui a déclaré que son frère va lui succéder éventuellement. Imran Khan parle d'un système monarchique avec les dynasties politiques de son pays.
The reason why democracy came in was because you wanted leadership on merit. You know, people came through a process to become a leader. In monarchy, it's hereditary, it's through blood. We are still stuck into it. We have the Bhutto family, we have the Wali Khan family, we have the Maulana Fazlur Rahman family, and then we have the Sharif family.
Voilà, Imran Khan, un des opposants du régime au Pakistan. Au Venezuela, les manifestants ont bloqué les rues pour tenter d'arrêter les élections de ce dimanche qui doivent permettre d'élire les 545 membres qui formeront une assemblée constituante. Écoutez un des opposants, Enrique Capriles.
Entonces, frente a esto del domingo,
alors nous y voilà, dimanche, qu'est-ce que l'on demande aux gens? Qu'ils se mobilisent. Et où le peuple doit-il aller? Pas dans les bureaux de vote. On va leur laisser se faire une petite élection interne au Parti Socialiste. Mais il n'y aura pas un chat. Les gens qui veulent de la démocratie, les gens qui veulent du changement, les travailleurs qui sont fatigués, épuisés et en colère, sortez dans la rue dimanche et nous nous retrouverons dans les rues de tout le pays.
Voilà Enrique Capriles, un des opposants au Venezuela. Le président Mugabe du Zimbabwe déclare qu'il n'y a personne de son calibre qui puisse le remplacer. Il est l'homme fort du pays depuis 1980, après l'indépendance de la Grande-Bretagne. Robert Mugabe se dit être en bonne santé.
Well, there is the issue. If the president is going, I'm not going. The president is dying. I'm not dying.
Voilà, le président Mugabe du Zimbabwe. Au Sénégal, on vote ce dimanche. La tension règne. Près de 700 000 électeurs sur les 6,2 millions que compte la liste électorale n'auront pas leur nouvelle carte d'identité parce qu'elles n'ont pas été fabriquées ou distribuées à temps. L'opposition déclare que c'est inacceptable. Reportage Guillaume Thibault pour Radio France Internationale.
L'an dernier, en décidant de dépoussiérer le fichier électoral, Macky Sall tablait sur 4 millions d'électeurs. Mais ce sont 6,2 millions de Sénégalais qui se sont inscrits. Par manque de temps, plus de 10% des cartes d'identité qui permettent de voter n'ont pas été fabriquées. Une situation qui a provoqué la colère de l'opposition. Doudou Ndir, le président de la Sénat, appelle tous les acteurs politiques au calme.
Comme il y a plus de 6 millions d'inscrits, effectivement, il faut prendre en compte le rush. Il faudrait que la sérénité regagne les rangs.
Le vote a donc été autorisé avec les anciennes cartes d'identité, de vote et les passeports. Comme il y a 700 000 électeurs supplémentaires, le nombre de bureaux a également été revu à la hausse. Des décisions pour éviter un chaos électoral, explique Doudou Ndir.
Tout cela participe bien entendu à une bonne organisation pour éviter toute contestation post-électorale qui ne serait pas de nature à assurer la sécurité et la stabilité du pays.
Pour ces législatives, les bureaux seront donc ouverts de 8h à 18h avec la possibilité de prolonger si tous les électeurs n'ont pas eu le temps de voter.
Guillaume Thibault pour RFI. Aux États-Unis, les officiels de Minneapolis mettent en vigueur dès ce dimanche une loi pour que la police branche les caméras qu'ils portent sur eux lors des opérations policières. Ceci après la mort d'une ressortissante australienne la semaine dernière tuée par la police. On écoute le chef de police par intérim, Medaria Arradondo.
What good is a camera if it is not being used when it may be needed the most? From this day forward in the Minneapolis Police Department, we want to add strength to our expectations. Body-worn cameras must be on.
Voilà le chef de police par intérim à Minneapolis. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile vendredi dernier. Les tensions montent d'un cran sur la péninsule coréenne. Au sud, l'armée est en garde. Mais les tensions arrangent les États-Unis, comme l'explique Juliette Moriot, spécialiste de la Corée du Nord.
Au fond, la Corée du Nord est finalement bien pratique pour les États-Unis pour maintenir sa présence militaire en Corée du Sud, 30 000 hommes, et par exemple à Okinawa. Et elle a besoin de maintenir cette présence militaire face à la montée en puissance chinoise. La seule chose qui pourrait désamorcer tout cela serait probablement d'entamer un dialogue, mais ce qui entraînerait de la part forcément des États-Unis une reconnaissance diplomatique de facto du pays. Et là, nous sommes dans une impasse. Il faut voir un petit peu plus loin et se dire que, par exemple, s'il y a cette montée en puissance des tensions dans la région, le Japon, la Corée du Sud pourraient aussi y voir une raison de se nucléariser à leur tour. Donc tout ça, c'est une sorte de jeu de dominos très, très, très dangereux. Et je pense que tout le monde en est conscient. Et vous avez un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la Russie. Et vous avez, n'oubliez pas non plus, des sanctions qui sont en cours à l'ONU et qui sont pour l'instant bloquées par deux acteurs principaux, la Chine et la Russie.
Juliette Moriot, spécialiste de la Corée du Nord. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 18 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 15, Hobart 12, Canberra 17, Sydney 26, Brisbane 25, Cairns 26, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 28 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. 4 personnes arrêtées à Sydney après que les autorités déjouent un attentat présumé contre un avion. Un référendum sur la question d'une république en Australie aura lieu en temps et lieu, selon le vice-premier ministre Barnaby Joyce. Et puis l'Australie gagne sa première médaille d'or aux mondiaux de natation grâce à Emily Seabomb sur le 200 mètres d'eau.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench